Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est donc le corps et aujourd'hui nous testons ses limites. Le groupe Facebook est puissant, le groupe Facebook a des moyens, le groupe Facebook décide, le groupe Facebook décide de donner des moyens supplémentaires à sa puissance en installant par exemple une équipe de chercheurs à Paris dont le domaine n'est autre que l'intelligence artificielle. Ils sont 6 pour l'instant, 12 tout bientôt et seront une trentaine dans quelques années. Au programme, le développement de casques qui favorisent, je cite, l'augmentation des interactions virtuelles, celui de techniques de reconnaissance vocale, reconnaissance d'images, classification d'objets, traduction automatique, prédiction des effets de médicaments. À partir des données multiples, images, sons, dont on rappelle que Facebook en récolte gratuitement des milliards chaque jour, l'idée est de développer des procédés se calquant sur le fonctionnement du cerveau pour que les machines, nos ordinateurs, nos portables, nous apportent à terme la meilleure réponse possible. Peu d'informations pour l'instant sur les salaires, rapporte un article du Monde.fr, mais pas de doute sur le fait que le groupe américain réunisse les meilleurs. Le nerf de la guerre, de toute façon, ce sont les données, et sur ce point-là, Facebook ne manque pas de ressources. Il est 16h, vous écoutez France Culture, il est 16h passé de 2 minutes même précisément, et c'est l'heure des nouvelles vagues. Nous pensons que les nouvelles vagues de pensée, d'action, de création se fondent sur des moments marqués d'émotions fortes chaque jour à la fin de l'émission. Du coup, nous demandons à quelqu'un de sonder ses souvenirs à la recherche de ce genre de moments. Cette semaine, c'est le paysagiste Louis Bénèche qui se prête à l'exercice aujourd'hui. Il nous parle du Rivage des Sirtes de Julien Gracq, publié en 1954, et de sa lecture de l'attente décrite par l'auteur et de la différence de l'attente du connu et de l'inconnu. Bref, beaucoup de choses vers 16h45. Hier, la romancière et danseuse Alice Roland nous parlait de son livre « À l'œil nu » paru aux éditions POL l'année dernière. Elle y regroupe des témoignages plus ou moins fictifs de femmes ayant travaillé dans ce qu'elle appelle un sex show, un club de striptease en bordure de ville, sur un boulevard nommé E, dans une ville inconnue. Elles y évoquent le quotidien des isoloirs où l'on ne vote pas, où l'on cherche une jouissance la plus rapide possible pour passer au client suivant ou vendre des prestations supplémentaires. Mais elles évoquent aussi les relations entre celles que l'on appelle les filles ou les modèles, leur solidarité parfois, leur amour. On réécoute Alice Roland.
La nudité de ces femmes n'est pas du tout une nudité qui permettrait de voir une vérité du corps. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse voir une vérité du corps à travers aucune nudité. Mais effectivement, est un costume, c'est une mise en scène. Et tout ça dépend, encore une fois, plus du lieu et de la mise en scène que d'une identité.
Le soir est triste, mon cœur est triste, ma vie est triste, y a le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti avec. Le ciel s'envoile, est plein d'étoiles qui me dévoilent qu'elle est heureuse loin de moi et qu'elle ne pense plus à moi. Mais oui, je chante. Et quand je chante, c'est pour rappeler mon amour, en priant qu'elle revienne un jour. Cette musique mélancolique, cette musique, je l'envoie par le vent du soir à celle que j'aimerais revoir.
Tristesse cet après-midi, Miss Chanel vous fait entendre un titre de Francis Bébé, Senza Tristesse. Il est 16h07 sur France Culture, vous écoutez les Nouvelles Vagues, c'est le troisième moment d'une semaine consacrée au corps. Lundi, les corps étaient choyés et écoutés, manucure, épilation, maquillage. L'historien Yvan Jablonka a rencontré pendant 2 ans une douzaine d'esthéticiennes dont il rapporte et commente les propos dans son livre Le corps des autres. Hier, mardi, la romancière et danseuse Alice Roland décrivait la rencontre et la non-rencontre des corps dans un club de striptease nommé À l'œil nu. Aujourd'hui, mercredi, nous abordons notre thème du corps depuis les enjeux des nouvelles technologies. L'obsolescence programmée du corps est de plus en plus déjouée par la progression vertigineuse des possibilités techniques. Déjà la prothèse, déjà le cœur artificiel, déjà le dopage entamait la course comparable à la conquête de l'espace pour la réparation du corps, sa transformation, son hybridation, son augmentation. Aujourd'hui, il ne semble plus avoir de limites dans le développement et l'accroissement de nos capacités. Pourtant, le mot limite, comme à chaque fois que se présentent à nous des avancées scientifiques, ou technique, est le maître mot du débat. L'homme augmenté, mais jusqu'où, entend-on demander? Qu'est-ce qu'il restera de notre humanité quand nous fonctionnerons grâce à des machines, avec des machines intégrées, selon des machines? Cela pose évidemment la question de notre propre rapport au corps en général, au corps vécu, au récit que l'on est capable de tisser pour vivre avec une prothèse, par exemple, ou tout objet non engendré. Edward, hop, d'un seul coup, vous devenez américain. Edward, je vous dis.
Klein... Si, comme vous voulez.
Ouais, voilà. On va dire que vous êtes tout à fait français.
Non, je suis français, oui.
Édouard Klein-Peter, vous êtes responsable de la médiation scientifique à l'Institut des sciences de la communication, qui dépend du CNRS, de l'Université Paris-Sorbonne et de l'Université Pierre et Marie Curie. Vos recherches, après être passées notamment par la physique et la philosophie, s'orientent selon 2 axes, l'interdisciplinarité et l'augmentation du corps. Vous avez par ailleurs dirigé la publication de l'Homme augmenté aux éditions CNRS. Bonjour et bienvenue.
Merci, merci pour votre invitation.
Bienvenue dans un monde où votre corps va être réinventé. Laissez-vous faire, la science s'occupe de tout. Vous voulez une nouvelle paire de jambes? Vous souhaitez être plus fort, plus rapide, plus intelligent? Pas de problème. Grâce aux dernières nanotechnologies et aux nouvelles avancées de la robotique, vos capacités seront décuplées. Pour votre descendance, choisissez vos options comme celle d'une voiture. Un enfant de sexe masculin, brun, aux yeux verts, avec le QI d'Einstein? Pas de souci, tous vos gènes sont sous contrôle et soigneusement réorganisés dans des tubes à essai. Dorénavant, le hasard n'a plus sa place sur Terre. Grâce aux stimulateurs cérébraux, aux puces électroniques sous votre peau et autres prothèses bioniques directement implantées dans le squelette, voici l'ère de l'humain augmenté.
Édouard Kleinpeter, c'est ici l'introduction d'un documentaire réalisé par Cécile Dangean. Alors voilà, il se termine sur ce mot « bienvenue dans l'univers de l'homme augmenté ». C'est peut-être aussi le premier mot dont on va s'emparer aujourd'hui pour en proposer une définition. D'où vient cette notion de l'augmentation du corps humain ?
Alors, tout d'abord, le documentaire se termine et mon ouvrage, enfin l'ouvrage que j'ai dirigé, s'intitule « L'humain » et non pas « L'homme augmenté », notamment parce que l'humain augmenté, c'est aussi la femme, et puis parce que l'augmentation de l'homme, en fait, renvoie à l'augmentation de son physique, de son corps. Donc, c'est peut-être ce dont on va s'intéresser aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres écoles de pensée qui voient le même type d'augmentation, mais appliqué cette fois-ci à l'humanité. Voilà, et maintenant j'ai oublié votre question, excusez-moi.
D'où vient ce terme-là ?
Oui.
Et peut-être en proposer à la fois une étymologie en repassant par l'anglais.
Oui, tout à fait. Alors c'est une traduction, disons, consacrée par l'usage de l'anglais « human enhancement ». Et qui, alors effectivement, on aurait pu choisir d'autres traductions, il y en a même d'autres qui ont été proposées. On aurait pu parler d'humain amélioré, mais ça renvoie peut-être à, disons, une conception un peu mélioriste, issue des Lumières, ou un aspect un peu axiologique, on va dire, enfin, c'est-à-dire trop concerné par ce qui est mieux, voilà, trop les valeurs, la morale, voilà, qui étaient impliquées dedans. Et on a décidé de garder le terme d'humain augmenté, qui donc renvoie cette fois-ci plus à une version quantitative, on va dire, de ce concept, où on peut être plus ou moins augmenté. Voilà, d'autres personnes, notamment la sociologue Simone Bateman, a proposé la traduction de rehaussement, qui selon elle, et je pense qu'elle a raison, correspondrait mieux, mais voilà, l'humain rehaussé, ça passait moins bien dans les médias, je suppose.
Quand on parle d'augmentation ou de rehaussement, on parle d'une base, on parle d'un point de départ. Ça veut dire que l'on considère notre connaissance sur le corps humain et une possibilité de l'appréhender acquise.
Alors vous avez raison, c'est sans doute un des sous-entendus de ce discours-là. Maintenant, toute augmentation, et on pourrait dire, enfin, quand même en préambule, que depuis qu'on a inventé le premier outil, quelque part, l'humain s'augmente. Hein, je veux dire, on a inventé l'arc pour augmenter nos capacités de chasse. Aujourd'hui, voilà, on porte des vêtements pour augmenter nos capacités de résistance au froid, etc., etc. Et donc, toute augmentation est de nature à modifier la norme. Voilà.
Donc, il faut qu'elle soit établie. Il faut qu'on s'entende sur cette norme-là.
Ou pas. Mais en tout cas, le discours porté par ceux qui sont les avocats de l'augmentation de l'humain, c'est qu'il y a une nature humaine qui, effectivement, n'est pas fixe, mais que, par l'hybridation avec la technologie, on doit pouvoir améliorer, dépasser, voilà.
Dans l'introduction, toujours de ce documentaire, il était question du désir. Vous voulez quelque chose pour vous ou pour votre descendance. Vous voulez une nouvelle paire de jambes, une nouvelle paire de bras. Et ça se terminait aussi sur cette idée selon laquelle le hasard n'avait plus sa place aujourd'hui dans le monde. Ce qui renvoie quand même très clairement aux théories de l'évolution, aux théories darwinistes qui travaillent justement cette notion de hasard. C'est à cela que cela met fin, vous diriez, la notion de l'augmentation de l'humain ?
Alors c'est très clairement une des volontés affichées des transhumanistes. Je suppose qu'on va parler donc de ce courant idéologique qui promeut en fait une transformation de l'être humain par les technologies. Effectivement, une des transformations voulues par ces gens-là, c'est une prise en main par l'humain de son évolution. C'est-à-dire la nature, l'état naturel de l'homme est finalement injuste. Hein, nous naissons pas tous avec les mêmes chances, pas tous égaux devant la vie. Et par la technologie, on pourrait ainsi pallier à ces injustices fondamentales naturelles et choisir vraiment vers quelle évolution nous voulons tendre.
En quels termes se pose le débat aujourd'hui ? On est toujours dans une dialectique du faisable souhaitable, d'une attraction pour la nouveauté technique, mais une répulsion ou une crainte face à quelque chose que l'on n'est pas sûr de mesurer ou de contrôler. Ce sont toujours ces deux pôles qui s'agitent quand on parle de ça ?
Oui, tout à fait. Le débat est très polarisé. Hein, ça, c'est comme, enfin, comme vous dites, il y a vraiment deux pôles. Et alors maintenant, la rhétorique, disons, consiste à dire que l'opposition se fait entre donc les transhumanistes, donc ces personnes qui voudraient modifier l'humain par les technologies, et les bioconservateurs, donc ceux qui seraient plus concernés par une conservation de l'être humain dans son état naturel.
Et au milieu ?
Et au milieu, bah alors il y a quelques scientifiques, hein, quelques chercheurs, quelques penseurs qui essayent justement de prendre un peu les deux bouts, d'analyser la façon dont les discours se fondent, sur quels arguments ils se fondent, et la façon dont ils circulent, dont ils sont récupérés, etc., etc.
Today, I have over a dozen pairs. Je possède maintenant plus d'une douzaine de prothèses de jambes conçues pour moi par différentes personnes. Chacune me donne une expérience différente du sol. Je peux en changer la taille. J'ai 5 tailles différentes de prothèses. Aujourd'hui, je mesure 1m85. Ces jambes ont été créées il y a plus d'un an par Dorset Orthopédique en Angleterre. Quand je suis retourné chez moi à Manhattan pour ma première sortie, j'étais invité à une réception élégante. J'y rencontre une copine qui me connaît depuis plusieurs années, mais qui me connaît mesurant 1m72. Lorsqu'elle me voit, elle s'exclame « Que tu es grande !» Je réponds « N'est-ce pas incroyable ?» C'est un peu comme porter deux paires d'échasses. Et j'entretiens un rapport complètement nouveau avec les cadres de porte. Ça me plaît énormément. Ma copine me regarde et me dit « Mais Amy, c'est injuste !» Et la chose incroyable, c'est qu'elle était vraiment sincère.
And the incredible thing was, she really meant it. It's not fair that you can change your height.
C'est injuste de pouvoir changer sa taille comme ça nous plaît. C'est là que j'ai réalisé que le discours de la société avait profondément changé au cours des 10 dernières années. Désormais, on ne parle pas de surmonter les déficiences, mais on parle plutôt de surpassement. On parle d'un potentiel sous-jacent. La fonction de la prothèse n'est plus uniquement de remplacer un membre perdu. La prothèse symbolise la liberté du porteur de créer sa propre réalité dans cet espace. Ceux qui jadis étaient handicapés aux yeux de la société peuvent dorénavant être architectes de leur propre identité et même continuellement réinventer cette identité en conservant leur corps comme un outil de maîtrise du pouvoir.
c'était France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.
Édouard Kleinpeter, on entendait juste avant une conférence TED, ce sont ces fameuses conférences en ligne très célèbres, surtout aux États-Unis. Ici, elle était donnée par Amy Mullins, qui est une athlète qui a été amputée des deux jambes à l'âge de 1 an et qui porte des prothèses. Elle raconte dans ce speech, non sans humour ou sans traficotage de l'émotion, qu'elle rencontre une amie qui s'extasie devant sa nouvelle taille et évoque la question de la justesse, de l'injustice, de la justesse d'un corps, de la justice d'un corps, puisque son ami lui dit « mais c'est injuste finalement, tu choisis la taille que tu fais ». Est-ce qu'une partie des questions éthiques qui se posent quand on parle d'augmentation de l'humain se pose en ces termes de justice ?
Alors oui, enfin, dans le cas de l'ami d'Aimé Mullins, elle trouve, enfin, ce qu'on aurait pu avant trouver injuste, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme Aimé Mullins, est né avec ce qu'on appelle une agénésie, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas ses deux péronées. Donc, elle a été amputée effectivement très jeune, donc on aurait pu se dire, bah, ça, c'est tout à fait injuste. Maintenant, l'injustice se renverse quelque part, puisque par ses prothèses, elle peut changer de taille, enfin, voilà. Donc ça, son ami trouve ça injuste. Maintenant, alors, effectivement, dans les débats autour de l'augmentation humaine, cette question de la justice revient sur le plan de l'égalité, l'égalité d'accès à ces technologies finalement, puisque si ces technologies d'augmentation sont amenées à se répandre dans la société, comment faire en sorte qu'elles bénéficient au plus grand nombre et que ce ne soit pas, je ne sais pas moi, si on parle d'allongement de la durée de vie, quelques Californiens qui vivraient jusqu'à 400 ans pendant que dans certains pays, on continue à mourir à 50 ans, voilà.
Si tant est qu'on ait décidé au préalable que quelqu'un ait décidé du préférable, vivre jusqu'à 400 ans ou vivre jusqu'à 50 ans, tout ça pose encore la question, vous le disiez tout à l'heure, d'une forme de norme, où est le bon, où est le juste, où est le bien, où est le souhaitable par rapport au corps. Ce sont des questions qui sont encore très, finalement, non résolues.
Oui, bien sûr. Maintenant, ces questions d'ordre éthique ne sont pas résolues. Ça n'empêche pas, effectivement, Facebook, comme vous mentionnez, par exemple, mais d'autres grandes entreprises comme Google, même la NASA aussi investit dans ce qu'on pourrait appeler des technologies d'augmentation. Ça n'empêche pas, donc, tous ces grands acteurs du monde politique et économique d'avancer quand même.
Et de se dire qu'il y a un très, très grand marché.
Certainement. Oui.
De quelle technologie on parle depuis tout à l'heure? On évoque ça comme un nuage de potentialité pour augmenter nos corps, mais aussi le réparer, l'hybrider, le transformer. Ici, il s'agit de prothèses, c'est assez visible pour tous nos auditeurs, pour moi la première. De quelle technologie on parle d'autres?
Alors, on regroupe vraiment un grand... Enfin, quand on parle d'augmentation, effectivement, on regroupe tout. Toutes les technologies qui vont, enfin, à la fois en technologie, mais aussi les médicaments, enfin, toutes les interventions pharmacologiques sur le corps qui vont permettre d'en accroître un certain nombre de fonctions. Voilà, donc là, la frontière, effectivement, vous mentionnez la question de la réparation, et la frontière entre réparation et augmentation a tendance, elle aussi, à se brouiller de plus en plus. Dans votre émission du lundi, où vous parliez donc des salons esthétique, est revenu un peu aussi cette question de l'apparence, de comment est-ce qu'on traite le corps. Et ici, dans le cas d'Aimé Mullins, il faut dire aussi qu'elle est effectivement athlète, mais elle est aussi mannequin, donc c'est une femme très belle. Et dans son cas, ses jambes, ce qu'elle dit, c'est que ses prothèses ne servent plus seulement à la réparer, mais également à l'augmenter. Et quand on parle de médecine, la médecine elle-même rouille les frontières, puisque d'une médecine avant faite pour réparer les corps ou pour, combler les infirmités ou pour soigner les pathologies, on peut, avec les mêmes technologies, et c'est là qu'est le problème en fait, c'est là qu'est la question, on peut aussi s'en servir pour augmenter. Dans le cas des prothèses de jambes d'Aimé Mullins, bon, ça lui permet d'augmenter sa taille, mais elle portait aussi, du temps où elle était athlète, les mêmes prothèses de jambes que l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, voilà, dont on a entendu parler pour d'autres raisons dans l'actualité. Mais en tout cas, lui a. Donc c'est un athlète sud-africain qui court le 400 mètres et qui a demandé en 2008 à courir avec les valides, et non pas en catégorie handisport comme il pouvait le faire avant. Et dans un premier temps, ça lui a été refusé. La question était de savoir si ces prothèses, donc qui sont en fait des lames de carbone qui lui servent à courir, donc si ces prothèses lui conféraient un avantage sur ses concurrents valides.
Comparable à du dopage presque, enfin en tout cas à mettre sur un plan.
Oui, voilà. Alors dans le milieu du sport, évidemment, la question se pose parce que le principe même de la compétition part du principe qu'il y a une égalité de départ entre les concurrents. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc oui, voilà. En quelque sorte, c'était comparable au dopage, même si là, on pouvait pas vraiment l'accuser d'utiliser des prothèses.
Et finalement, pour Pistorius,
ça lui a été, enfin, comme je pense beaucoup de monde le sait, ça lui a été accordé. Il a pu participer aux Jeux Olympiques de Londres aux 400 mètres, avec les valides, où il a perdu, je crois, en demi-finale. Et il était également aux 400 mètres par équipe avec l'équipe d'Afrique du Sud.
Donc ce que ça nous dit, c'est que finalement cette frontière entre la réparation, combler comme vous dites une infirmité et augmenter des capacités, des capacités physiques, elle est très floue et elle est à la distinction de qui ? De celui qui augmente son corps, de celui qui fabrique la technologie rendant possible cette augmentation, qui finalement pose cette limite ?
Alors, en fait, quand on s'intéresse au concept, comme le font les philosophes, on voit, comme vous dites, que cette frontière est très difficile à définir. Maintenant, nous, on travaille aussi dans mon laboratoire avec des psychanalystes qui disent, eux, que du côté de la personne elle-même, la frontière est très claire. C'est-à-dire, ils savent si ils sont en train d'utiliser un dispositif pour s'augmenter ou pour se réparer, pour le dire vite. Donc, je dirais que cette limite est fixé en fait par ce que Canguilhem a appelé la normativité, c'est-à-dire la façon dont la personne vit son propre corps et sans considération particulière pour la norme extérieure en fait.
Ce qui renvoie aussi à l'idée du corps vécu et à la nécessité d'élaborer un récit conscient ou inconscient pour que le corps tienne dans une continuité et éventuellement rendre possible des identités ou une identité. C'est aussi un mot auquel fait appel Amy Collins. L'identité, elle rentre nécessairement quand on pose la question d'augmentation du corps de l'humain.
Oui, Amy Collins parle d'être architecte de sa propre identité. Donc si mon identité, si ma normativité, c'est de pouvoir, vivre 400 ans ou courir plus vite qu'un guépard, eh bien, voilà, grâce aux technologies, j'ai la possibilité, comme ça, de modeler mon corps d'une façon qui corresponde à ce que j'ai envie qu'il soit. Et donc ce qui constitue mon identité. Mais c'était déjà le cas, par exemple, des technologies de chirurgie esthétique.
Et ça l'est encore. C'est-à-dire peut considérer que toutes les interventions chirurgicales qui ont trait à l'esthétique, ou même toute personne se faisant implanter un cœur artificiel, la question de l'introduction de quelque chose d'étranger au corps tel qu'il a été engendré et construit au départ, nécessite, j'imagine, un changement du récit de ce corps-là.
Oui, ça c'est ce que mettent aussi en avant les psychanalystes. C'est-à-dire que l'hybridation, l'intégration de composants exogènes à l'intérieur du corps, typiquement, à partir du moment où ils ne sont pas détachables, je vous parlais du cœur artificiel, nécessite une reconfiguration de l'identité. Et le problème qu'on a, c'est que certains discours tendent à dire que cette reconfiguration finalement ne serait pas problématique parce que finalement le corps est un matériau brut qu'on peut modeler comme on en a envie pour être encore une fois architecte de sa propre identité, alors que comme je vous dis les psychanalystes mettent en avant le fait que non, ça ne se passe jamais comme ça. C'est toujours et potentiellement délétère pour la personne humaine.
Aujourd'hui, quelles sont les technologies qui permettent d'augmenter le corps humain ? On a parlé de la prothèse, mais à quoi a-t-on accès ? Je disais tout à l'heure que la technologie laissait penser qu'il n'y avait aucune limite au corps humain. C'est ce qu'on dit souvent. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Aucune limite à l'augmentation du corps humain ?
Oui, parce que justement, le principe de l'augmentation, c'est de dépasser les limites du corps humain. Alors, à quelle technologie a-t-on accès ? Il y en a beaucoup. Hein. Bon, on a mentionné les prothèses, mais on peut parler des exosquelettes qui servent, donc qui sont en fait des espèces de carapaces, de robots dans lesquels un être humain peut s'insérer et qui vont augmenter sa force, un peu comme le Iron Man ou dans la culture. Cinématographique.
Définitivement, c'est pas un costume qu'on peut enlever.
Alors, si l'exosquelette, en l'occurrence, il est débrayable, on peut s'en sortir. Mais effectivement, vous avez raison, il y a une différence entre les prothèses, on va dire, détachables, celles dont on peut se séparer, et les prothèses implantées, hein, évidemment. Alors, le plus souvent, on observe que celles qui sont implantées sont celles qu'on souhaite être le plus silencieuse possible. Si j'ai un cœur artificiel, j'ai pas envie que mon cœur artificiel me rappelle toutes les 5 minutes qu'il est là. J'ai envie qu'il fonctionne comme un cœur biologique. Si j'ai un pacemaker, c'est pareil, j'ai envie de l'oublier. Si j'ai une pompe à insuline intégrée, bon, etc., etc. En revanche, les dispositifs d'augmentation externe sont souvent les plus voyants possibles, parce qu'on a envie de les montrer. Mais alors pour parler de ce à quoi on a accès. Je parlais au début, en fait, depuis qu'on a inventé le premier outil, quelque part, on s'est augmenté. Et maintenant, il est vrai que tous nos dispositifs technologiques sont une forme d'augmentation, même la radio. Vous voyez, grâce à la radio, j'ai ma voix qui peut porter à des distances très importantes, et il y a des gens qui peuvent m'entendre alors qu'ils sont très largement hors de portée de ma voix.
À la différence près, peut-être pour cet exemple, que le micro n'est pas intégré à votre propre bouche ni votre propre gorge, et que sans ce micro et avec la distance qui existe entre votre corps et ce micro, une fois que vous serez dehors dans le couloir, tout ce que vous direz ne pourra pas atteindre les dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent. C'est peut-être une différence notoire. C'est peut-être une différence entre avoir un outil et modifier son corps.
Oui, tout à fait. C'est ce que je disais sur la différence entre les prothèses implantées, les outils, les dispositifs implantés, les dispositifs détachables. Oui, bien sûr. Il y a la frontière de la peau reste une barrière symbolique très, très forte.
À quoi on touche alors encore quand on augmente le corps humain ? On a parlé des exosquelettes qui nous font changer aussi de puissance et de silhouette, ce n'est pas rien. On a parlé de la taille qui se modifie, de notre possibilité de courir plus ou moins vite, de nous déplacer. Est-ce qu'on peut voir mieux ? Est-ce qu'on peut voir d'autres choses ? Est-ce qu'on peut voir plus loin ?
Oui, je vois que vous portez des lunettes, par exemple. Ça, c'est... Alors, c'est un dispositif de réparation, mais aussi un petit peu d'augmentation. Je pense que la première fois que vous avez chaussé vos lunettes, vous vous êtes rendu compte que vous voyez mieux. Encore, que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Bon, voilà, après on peut aussi évidemment les dispositifs qui permettent de voir la nuit, hein, y a tout ce qui concerne aussi la pharmacologie, donc qui permet à la fois d'augmenter les performances musculaires, les performances en termes d'endurance, bon ça c'est les cas du dopage sportif, mais aussi maintenant les performances intellectuelles. On voit un certain nombre de médicaments qui sont précisément détournés de leur usage, par des personnes qui souhaitent pouvoir mieux se concentrer ou pouvoir rester éveillé plus longtemps ou pouvoir mieux se focaliser sur une tâche.
La question éthique, c'est de savoir quoi ? Est-ce qu'on réglemente ? Est-ce qu'on autorise ? À quel endroit, finalement, cela pose problème ? Avant, bien sûr, les cas évidents où des individus sont en souffrance.
Alors oui, la question de la réglementation est... quelque part, par des gens comme Aimé Mullins ou par les transhumanistes, on va dire, américains, est plus ou moins réglé. C'est-à-dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, point final. Voilà. Donc, il n'y a pas de réglementation à avoir de la part d'une autorité supérieure. Les questions éthiques, à mon sens, émergent plus lorsqu'on s'intéresse à, finalement, qu'est-ce que l'augmentation ou le désir d'augmentation nous dit de la façon dont on considère le corps et de la façon dont on considère l'humain d'une manière générale. En particulier, l'hybridation, comme je vous disais, est souvent considérée comme non problématique par les personnes qui en sont les avocats, alors qu'elle l'est par ailleurs. Mais cette hybridation avec des éléments technologiques, en fait, suppose qu'il existe une espèce de continuité ou de compatibilité au moins entre le corps et la technologie. Donc autrement dit, le corps est une forme de machine. Ça, c'est, bon, c'est pas nouveau, hein. Descartes, déjà, avait un discours un peu semblable, de la maîtrise également. Mais ici, il se renforce, et d'autant plus que maintenant, le corps est de plus en plus, enfin, tout ce qui est machinique est potentiellement transformable en information. Hein. Ça, c'est ce qui intéresse donc Facebook et autres. C'est comment est-ce que, à partir des comportements, à partir aussi des manifestations corporelles, on va pouvoir récupérer des données pour après pouvoir les réutiliser, les traiter par des machines.
Ce qui pose aussi la question de l'égalité. Tout à l'heure, vous disiez que finalement, la justice ou l'injustice, elle s'opposera très vite, et si ce n'est déjà, sur l'accessibilité à ces technologies. C'est déjà le cas, j'imagine, des prothèses et de certaines médications qui tendent à réparer, transformer, améliorer le corps. Toutes ces technologies ou ces avancées scientifiques, elles ne sont pas toujours à la portée de chacun, et tout le monde ne peut pas jouir des mêmes prothèses aussi efficaces. Tout le monde ne peut pas jouir, même parfois malheureusement, d'une paire de lunettes que j'ai sur le nez. Justement, peut-être que là aussi se pose la question éthique de l'accessibilité à cette augmentation.
Oui, bien sûr. Ça, c'est en termes d'égalité d'accès, comme je disais, oui, ça c'est une vraie question. Et pour être tout à fait juste avec les transhumanistes, parce qu'il y a plusieurs courants dans le transhumanisme, mais il y en a certains qui sont effectivement concernés par ces questions-là et qui essayent de pousser ou de militer pour des technologies qui seraient, pour le coup, accessibles au plus grand nombre. On a vu là. Une personne qui a inventé en fait des prothèses qui seraient faciles à reproduire avec des imprimantes 3D. Bon bah voilà, là c'est une utilisation de la technologie effectivement qui permet de produire des prothèses à moindre coût et qui pourrait pour le coup bénéficier au plus grand nombre. Donc voilà, la technologie n'est pas ni bonne ni mauvaise, hein, c'est ce que comment est-ce que Platon appelait le pharmacon, quoi. C'est toujours à la fois le remède et le poison.
La question, c'est qui s'en empare ?
Oui, qui s'en empare ? Eh bien, en tout cas, si on laisse faire, voilà, il y a des gens qui vont s'en emparer, parce qu'effectivement, il y a des marchés.
Qui recherche aujourd'hui, puisque vous dépendez d'universités, du CNRS, de l'université Pierre et Marie Curie et de l'université Paris-Sorbonne, qui met en œuvre des recherches en dehors de Facebook que je citais tout à l'heure et qui vient d'installer un groupe de chercheurs à Paris pour travailler sur l'intelligence artificielle?
Alors, en France, on a effectivement un certain nombre de recherches qui sont faites, mais qui ne sont pas ouvertement dirigé vers l'augmentation humaine ou vers le transhumanisme.
Pas appliqué, vous voulez dire ?
Si, non, mais c'est leurs concepteurs, les gens qui travaillent dans, qui vont fabriquer par exemple des prothèses, leur but n'est pas de créer un Iron Man. Voilà, leur but, c'est que les personnes handicapées puissent retrouver une vie plus ou moins normale, en faisant les meilleures prothèses possibles, les plus confortables possibles, avec des capacités de commande les meilleures possibles. Tout ça pour réparer, toujours. Alors, évidemment, ils ont aussi conscience souvent que ces technologies peuvent servir à augmenter. Mais c'est bon, voilà, ils préfèrent ne pas trop s'impliquer dans le débat et préfèrent bien souvent parler plutôt des limitations technologiques et en atténuant un peu les discours parfois un peu exaltés et prospectifs qu'il peut y avoir autour de ces technologies. Maintenant, donc ça c'est en France. C'est vrai. Maintenant, il y a d'autres instituts, hein, notamment aux États-Unis. Enfin, j'ai mentionné Google. On pourrait mentionner l'université de la singularité de Ray Kurzweil, qui eux, c'est technology for a better life. Hein, on va améliorer la vie des gens. Vraiment, la visée, c'est grâce aux technologies, on va améliorer le bien-être, améliorer le confort, contribuer au progrès général de l'humanité.
Et là, pour reprendre les mots d'Yvan Jablanca de lundi, la question du soin, du corps, de son amélioration, c'est aussi une question très vite idéologique. Quand on entend Technology for Better Life, quand se pose la question de la meilleure vie, arrive très très vite la politique.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la meilleure vie ? Et est-ce que c'est finalement à Google de décider ce que serait que la meilleure vie ?
On peut répondre ou pas ? Est-ce que c'est à Google de décider ?
Ah bah, à mon avis, non, mais mais le fait est qu'ils avancent. ils avancent, ils font des choses. Facebook aussi, vous l'avez dit, ce ne sont pas les seuls. Sur le continent américain, il y a vraiment cette idée de comment mettre au service ma connaissance pour transcender l'humain. Quoi. Le transhumanisme, c'est ça, c'est transcender l'humain, passer de ce que nous sommes aujourd'hui, être de chair soumis à la corruption et à la mort, vers ce qu'ils appellent le post-humain, c'est-à-dire l'étape suivante de notre évolution.
Le corps humain est une machine qui monte elle-même ses ressorts, vivante image du mouvement perpétuel. Les aliments entretiennent ce que la fièvre excite. Sans eux, l'âme languit, entre en fureur et meurt abattue. C'est une bougie dont la lumière se ranime au moment de s'éteindre. Mais nourrissée de liqueurs fortes, alors l'âme, généreuse comme elle, s'arme d'un fier courage et le soldat que l'eau eût fait fuir devient féroce, court gaiement à la mort au bruit des tambours. C'est ainsi que l'eau chaude agite un sang que l'eau froide eût calmé.
Mon plan pour arrêter de vieillir, c'est déjà de bien se souvenir qu'un corps est une machine. Et qu'il fonctionne comme toutes les machines, comme par exemple des voitures ou des avions. Sauf que bien sûr, c'est une machine vraiment très compliquée. Mais c'est le même principe. Une voiture, quand elle est usée, que fait-on? On la répare, on change des pièces, on enlève la rouille. Et bien pour le corps humain, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas besoin de me croire, vous n'avez qu'à vous dire que j'ai peut-être raison. D'ailleurs, peut-être que j'ai seulement 20, 10, 5% de chances d'avoir raison. Mais même si je n'ai que 5% de chances d'avoir vu juste, on pourrait sauver 5000 personnes tous les jours.
Mais pourquoi vous voulez tellement sauver l'humanité de la vieillesse et de la mort?
C'est quand même très curieux que les gens se posent cette question. Je veux dire, personne ne se demande pourquoi Mère Teresa veut sauver des gens qui meurent en Inde. Personne ne trouve anormal que Louis Pasteur ait voulu éviter aux gens de souffrir et de mourir d'infection. Alors pourquoi me pose-t-on la question à moi, qui veux sauver les gens de la mort? C'est exactement pareil.
Le corps humain est une machine, c'est une expression qui est donc utilisée à la fois dans un texte qui date de plusieurs siècles, l'homme-machine de Lemaître, et dans la voix de ce Aubrey de Rais, extrait d'un reportage diffusé sur France 2 en avril 2015, qui est présenté comme une sorte de gourou du transhumanisme. Alors on a beaucoup prononcé le mot transhumanisme ou le mouvement transhumaniste depuis le début de notre entretien, Edouard Kleinpeter. Est-ce qu'on peut essayer de le définir, ce mouvement?
Oui, alors comme j'ai dit, effectivement, le transhumanisme, il y a plusieurs courants. Bon, globalement, tous se retrouvent autour de l'idée de modifier l'homme par la technologie. Maintenant, bon, je vais pas vous faire l'historique de tous les courants du transhumanisme, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. À l'origine, le premier à avoir utilisé ce terme, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est Julian Huxley, qui est en 1957, qui est le frère d'Aldous Huxley, hein, donc l'auteur du Meilleur des Mondes. Et il avait déjà cette idée, voilà, de à la fois de transcender l'humain grâce à la technologie, mais aussi le trans, de transition, de préparer une transition entre ce que nous sommes aujourd'hui et l'étape suivante de notre évolution, qui est donc le post-humain.
Mais ça voudrait dire en finir avec l'espèce humaine aussi si on s'en reporte à l'idée d'une évolution telle qu'elle est pensée par Darwin, ce serait quoi, la fin d'une espèce, la modification très forte d'une espèce et des qualificatifs de cette espèce-là, ce serait quoi exactement l'idéologie?
L'idée qui n'est pas qu'une idéologie, parce que Aubrey de Grey effectivement a un côté gourou, un côté assez sentencieux, mais c'est aussi un biologiste qui réalise des travaux qui sont suivis et reconnus par la communauté scientifique, et on pourrait citer d'autres personnes même en France, hein, qui travaillent sur les mécanismes du vieillissement et sur le ralentissement de ces mécanismes du vieillissement.
Ma question c'était de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il prévoyait, souhaitait une fin de l'espèce humaine.
Oui, bah le bon, je ne sais pas s'ils veulent une fin de l'espèce humaine. En tout cas, ils considèrent que l'humanité telle qu'elle est, comme je dis, donc soumise à la souffrance, à la déchéance, à la mort, à la maladie. Et ça quelque part, c'est insupportable. Et la puissance de l'argument d'Aubrey de Grey est finalement assez forte quand il dit bon bah, est-ce que vous voulez mourir d'un cancer vous? Bon bah non. Bon bah laissez-moi faire mes recherches. A priori, tout le monde voudrait pouvoir vivre le plus longtemps possible et le mieux possible. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, pour en revenir quand même à vos questions sur le transhumanisme, voilà, j'ai retrouvé les différents courants du transhumanisme. Aubrey de Grey, lui, s'inscrit dans la tradition. Donc, je parlais de Julian Huxley. Après, ça a été repris donc dans la Californie libertaire des années 60-70, où il y a eu, alors là, pour le coup, vraiment un certain nombre de gourous défoncés à l'acide qui professaient encore une fois cette transformation de l'humain par la technologie. On va dire sous sa version moderne. Ça vient également de Californie, et c'est là cette fois-ci, voilà, comment on a les moyens d'agir aujourd'hui techniquement sur le génome humain, de transformer vraiment l'espèce et de choisir notre évolution, ce qui est quelque chose de complètement inédit dans l'histoire humaine. Donc voilà, partant de là, puisqu'on peut le faire, pourquoi ne pas le faire?
Les moyens qui vont jusqu'à remettre en question notre mortalité ou notre espérance de vie à une très très grande échelle?
Oui. Bah, Aubrey de Grey parle d'une vitesse de libération. C'est-à-dire quand l'espérance de vie d'un être humain croîtra plus vite que un an par an. Voilà. Donc autrement dit, on aurait potentiellement des personnes qui pourraient vivre indéfiniment. Oui, mais ce sont des spéculations. Moi, je suis pas. Je sais qu'il y a des travaux très sérieux qui se font sur ces questions-là, qu'on a déjà obtenu un certain nombre de résultats chez la souris. Mais comme il l'a dit, le corps humain est une machine. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, si c'est une machine, c'est une machine compliquée. Et on a vraiment du mal. Enfin, quand on va soigner le cancer, bon, le cancer c'est compliqué, mais peut-être un peu plus identifiable que le vieillissement d'une manière générale, où là, bah, c'est toute la machine finalement qui se dérègle tout en même temps et en cascade en fait arrive après tout les mécanismes de sénescence et finalement de mort.
Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que le corps humain serait une machine?
Ah bah. Alors, vous avez cité aussi de la maîtrise. À la suite de Descartes, en fait, vous voulez peut-être le dépasser. Il disait que non seulement le corps est une machine, mais le cerveau également est une machine. Et autrement dit, finalement, la conscience, le sentiment d'identité, tout ça, ne seraient que des phénomènes émergents, en fait, de l'interaction entre... des entités en grand nombre, hein, puis finalement que ce soit des neurones dans le cerveau ou des puces dans un ordinateur, c'est la même chose. Et ça, j'ai du mal, presque pour des raisons, j'allais dire, de rejet personnel, à m'accorder avec cette question-là. On m'avait posé la question, une fois, de savoir s'il était possible de mettre du sens moral dans un robot. J'ai répondu que non, je ne pense pas. Dans la mesure où, enfin, ne serait-ce que parce que les robots n'ont pas de sexualité. Donc comment voulez-vous expliquer la morale à un être qui n'a pas de sexualité?
Donc vous attendez que les robots aient une sexualité?
Ah non, 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 bah, je pense pas qu'ils en aient une un jour.
On verra.
On verra.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Et à cette heure-ci sur France Culture, nous demandons à quelqu'un de raconter 5 moments marqués par une émotion forte. Cette semaine, c'est le paysagiste Louis Bénèche qui se prête à l'exercice. Il a pour très très beau métier de penser des jardins, d'en être lui aussi l'architecte. Et aujourd'hui, il nous parle de littérature, il nous parle de sa lecture du Rivage des Sirtes de Julien Gracq. On l'écoute.
Julien Gracq a écrit des tas de livres autour de cette attente. L'attente, c'est... C'est un état étrange mais que je trouve tout à fait merveilleux et qui est formidablement décrit dans ce livre qui partit le marché, dont les descriptions géographiques me faisaient rêver, dont l'invention et l'alchimie de mélange lagunaire, lunaire, où du coup, quand j'ai lu ce livre, les premières fois, j'essayais de naviguer dans les géographies qui avaient pu suggérer à Julien Gracq cette écriture et ces descriptions. Et probablement plus que les sentiments qui intéressent certaines personnes humaines, ce qui me fascinait aussi, c'était ces descriptions de pays que je lisais comme étant des pays plats, mais qui pouvaient être aussi avec des failles et des criques et des moments. Enfin, une géographie qui était très émouvante et très extrêmement suggestive.
À quel âge vous lisez ce roman de Gracq pour être sensible à ces choses-là ?
Très tôt. J'ai dû le lire, enfin je veux dire très tôt, je sais pas si on appelle ça tôt ou tard, mais j'ai dû le lire à 15 ans peut-être, ou peut-être plus tôt. Je vous raconte pas ce que je lisais aussi à cet âge-là.
Bah si.
Non, j'ai lu plein de choses où quand mes pauvres parents me voyaient avec ce genre de livre entre les mains, ils tombaient de leur chaise en me demandant d'arrêter de les lire. Mais...
Est-ce qu'elles vous ont été moins utiles que Gracq, pour autant ?
Enfin, c'est pas du tout les mêmes portées. Il y a des portées de choses qui sont des leçons de vie. Gracq, c'est pas une leçon de vie, c'est justement c'est du rêve. C'est-à-dire que quand on lit, on rêve. Enfin, je veux dire, on est porté dans un état de douce lévitation, comme est probablement l'attente. C'est-à-dire que la description et la narration est aussi porteuse que de choses très matérielles et physiques devient la sous-tension à un état d'âme. Et je le relis encore de temps en temps. J'ouvre au hasard quelques pages et ça me fait encore un plaisir infini.
Quand on sait ce que vous travaillez et les espaces dans lesquels vous travaillez, l'attente, c'est aussi l'attente, par exemple, de la floraison, l'attente d'une pousse, l'attente du surgissement d'un végétal. Est-ce que c'est aussi lié à cette attente-là ?
Oui, mais cette attente-là, elle est prospective et on sait que ça va arriver. Évidemment, je veux dire, quand on fait un semi, il peut y avoir des déceptions, par exemple. Mais comme c'est un geste qui m'est pas quotidien, mais un geste qui est sûrement habituel. J'ai été jardinier, donc j'ai fait des semis, ça devient une norme, une habitude. Et j'ai pas d'impatience. Enfin, je constate, j'ai des graines en bas, par exemple de lotus, qui n'arrivent pas à germer. Ça m'agace un peu, mais ça s'arrête à ça. Et je sais que mon attente, qui dure depuis 2 ans, risque d'être un peu frustrée. En tout cas, ce qui est très amusant, c'est que être jardinier, ça pourrait être une source de sagesse à certains égards et de jeu de patience, mais que je ne lis pas chez moi comme un jeu de patience, puisque je programme les résultats avec bon sens, avec un peu de connaissance, et donc sans impatience. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des termes aux étapes, et quand surprise il y a, elles sont toujours bonnes surprises. C'est-à-dire que quelque chose qui ne pousse pas comme on l'a projeté, c'est sympathique.
Et ce n'est pas l'attente décrite par Gracq. Là, on est encore dans autre chose, alors.
Je pense, puisque c'est une histoire humaine, l'attente de Gracq, c'est la guerre. Donc c'est l'événement explosif. Ça pourrait être la même chose, effectivement, qu'une éclosion d'un végétal, peut-être. Mais comme je sais que la germination existe, et que je sais que chez les dicotylédones, les cotylédons vont s'ouvrir et puis laisser apparaître 2 premières feuilles, et je veux dire, il y a ce qu'on sait. Ce qu'il y a d'incroyable dans Gracq, c'est que on ne sait pas quelle est la figure de cet événement qui arrivera ou n'arrivera pas. Il y a ces échanges de messagers, il y a une tension qui monte. Voilà, la différence entre Gracq, c'est qu'on attend l'inconnu, et que quand on attend une germination, on attend le connu.
Edward Klein Peters, c'est La Femme, avec un titre dont je vous laisse dire le nom.
It's Time to Wake Up, 2023.
Voilà, 2023, c'est le sous-titre. Pourquoi avoir choisi cette chanson pour terminer l'émission?
D'abord parce que j'aime beaucoup ce groupe. Ça raconte en fait un couple en Californie en 2023. Alors, est-ce que c'est la vraie Californie? On ne sait pas s'ils sont même sur Terre, parce qu'ils sont sur une planète où il y a deux soleils. Bon. Et donc en 2023, en Californie, l'hybridation du corps, tout le monde est mort de silicose, donc je l'interprète en tout cas comme une transformation du corps humain en machine. Donc ça me semblait être raccord avec le thème.
Thème dont vous voulez peut-être aussi annoncer un colloque, mais très rapidement.
Annoncer juste une conférence qui aura lieu dans le cadre de Futur en scène le 11 juin de 17h à 19h au Conservatoire National des Arts et Métiers et qui s'intitule « Le transhumanisme est-il un humanisme ?» Voilà,
pour ceux qui s'intéresseraient. Ce sera la poursuite de l'émission du jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. On poste toutes les bibliographies, les références musicales et d'autres liens. On peut se parler sur ce site ainsi que via Facebook ou Twitter. Merci à Romain Debecq de Lièvre, à Inès Duperron et à Claire Maillot pour l'instant tout à fait humain. Ils pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la technique aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontani. Le set gagnant pour Djokovic, on en est où dans le deuxième set? Ça commence.